Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute et heureux de partager ces moments avec vous, comptant toujours sur la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous poursuivons aujourd'hui l'étude commencée le mois passé. Rappelons que nous nous retrouvons, si Dieu le veut, une fois par mois, le troisième jeudi à 10h. Le thème sur lequel nous méditons est « L'Église de Jésus-Christ ». Comme nous l'avons dit le mois passé, l'Écriture sera pour nous la référence, le fondement de notre foi. Rappelons simplement notre manière de procéder pour mener à bien cette étude. Nous allons laisser parler l'Écriture, de sorte que nous dirons « Voici ce qui est écrit, et c'est cela que nous croyons ». Et comme l'apôtre Paul l'a écrit en s'adressant aux chrétiens qui se trouvaient en Galatie, nous vous engageons à contrôler dans les Écritures ce que nous vous annonçons. Nous apprenons de l'enseignement donné par le Christ et les apôtres, auquel aucune, entre guillemets, nouveauté, même apportée par un ange du ciel, ne doit rien changer. Pour mémoire, je cite Galates chapitre 1 verset 8, Bible français courant, Galates chapitre 1 verset 8. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous, ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Le mois dernier, concernant l'Église de Jésus-Christ, nous nous sommes posé la question suivante. Qui en sont les membres? Et dans Actes chapitre 2 verset 47, nous avons lu ceci. Actes chapitre 2 verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église est donc l'assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont sauvés. Et c'est l'œuvre du Seigneur. C'est tout simplement l'accomplissement de ce que Jésus a annoncé. « Je bâtirai mon Église ». Divers qualificatifs désignent ceux qui sont sauvés, qui composent l'Église. 12 sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Nous avons commencé de les examiner dans le but de cerner le profil et la piété qui va avec. Cela, évidemment, avec l'objectif de nous encourager, en nous servant de modèle. Successivement, nous avons nommé les disciples mentionnés dans Actes chapitre 2, verset 41, Bible Louis II, Actes 2, 41. Puis, nous avons cité les chrétiens, Actes chapitre 11, verset 26, Actes chapitre 11, verset 26. Ensuite, nous avons évoqué les croyants, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Puis, nous avons fait état des enfants de Dieu ou fils, 1 Épître de Jean chapitre 3 verset 1, 1 Jean 3, 1. Et en cinquième position, nous avons placé les héritiers ou co-héritiers, Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, 17. Puis a suivi la mention « frère ». Matthieu 23, 8. Matthieu chapitre 23, verset 8. Et pris par le temps, nous nous sommes arrêtés à cette mention, la sixième. En nous séparant, nous avons proposé à ceux que cela pouvait intéresser de chercher six autres qualificatifs pour vous motiver dans votre lecture de la Bible et vous inciter à chercher par vous-même en creusant profondément, tel l'homme sage cité un exemple par Jésus, qui a agi ainsi afin de bâtir la maison sur le roc. Bien-aimés, si vous êtes de ce nombre, si vous savez chercher, en un mot, si cette étude vous intéresse, faites-le nous savoir. Cela sera pour nous un réel encouragement. Pour le septième qualificatif, nous trouvons la mention « racheté. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, tout comme dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, 1 Corinthiens 7, 23, il est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Oui, nous sommes l'objet d'un grand salut, et le prix payé pour notre rachat est le sang de Jésus. Je lis 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Quelle grâce ! Cela n'appelle-t-il pas de notre part une grande reconnaissance ? Oui, certainement. Nous arrivons maintenant au huitième qualificatif. Nous citerons les élus. Matthieu chapitre 24, verset 31, Bible du Semeur. Matthieu 24, 31, il enverra ses anges rassemblés, au son des trompettes éclatantes, ses élus, des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Nous lisons aussi Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. L'élection n'est pas un choix arbitraire de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus précise, Jean 3, 16, « Afin que quiconque croit, chacun est devant l'offre de l'amour divin, un peu comme si tous les hommes marchant sur un chemin large et spacieux se voient interpellés par la mention « posée sur une porte étroite ».« Entrez et vous serez sauvés ». La porte franchie, il découvre une autre inscription. Vous êtes élu. Dans sa préscience, c'est-à-dire dans sa connaissance anticipée des événements, Dieu a inscrit dans le livre de vie le nom de tous ceux qui répondraient positivement à l'appel de l'Évangile. Mais le Seigneur te laisse libre de ta décision, avec toutefois un conseil, choisis la vie. Neuvième qualificatif, les saints. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Les destinataires de cette lettre sont les membres de la communauté des croyants, ayant fait choix de suivre le Christ, et résidant dans la ville d'Éphèse. Je lis 1 Pierre chapitre 1 verset 15 et 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 et 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit vous serez saints, car moi je suis saint. Cela découle de la nature divine. Car moi, dit le Seigneur, je suis saint. On reconnaît l'arbre à son fruit. De sorte que chaque disciple, croyant, chrétien, nous pourrions passer en revue tous les noms déjà évoqués. Tout chrétien donc doit porter comme fruit celui de la sainteté. Je lis Romains chapitre 6, verset 22, Bible du Semeur. Romains 6, 22. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. La tradition, au cours des siècles, a modifié le sens des Écritures et a restreint le sens du qualificatif à quelques humains déjà entrés dans l'éternité. Mais l'Écriture, comme nous l'avons vu, applique ce terme à tous les vivants sur terre qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 1, Éphésiens chapitre 1, verset 1, nous avons aussi le qualificatif de « fidèle ». Nous trouvons là une des facettes du fruit de l'esprit. Je lis Galates chapitre 26, verset 22, Bible du semeur. Galates chapitre 6, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est l'expression de la nature divine. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, Apocalypse 2, 10, nous lisons ceci. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Nous avons ici, avec la fidélité, la notion de persévérance. C'est bien ce qui est précisé à l'égard des premiers disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes chapitre 2, verset 42. Actes 2, 42. Et voici de quelle manière cela est rapporté dans la Bible français courant. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Si d'aventure on vous demande « Combien y a-t-il de fidèles dans votre paroisse ?» En réponse, ne donnez pas un nombre, mais répondez « La totalité ». Avant de poursuivre, nous écoutons maintenant une page musicale. J'affectionne tout particulièrement le 11e qualificatif. Nous le trouvons en lisant 1 Jean chapitre 2 verset 7. 1 Jean chapitre 2 verset 7. Je lis. Bien-aimés, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Nous le trouvons aussi au chapitre 4 verset 1er. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er, je lis. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Dans ce même chapitre 4, verset 7, chapitre 4, verset 7, nous lisons. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Certaines traductions mentionnent « mes chers amis » à la place de bien-aimés. Dans l'épître de Jude, nous retrouvons cette mention à trois reprises. Au verset 3, verset 3, au verset 7, verset 7, et au verset 20, verset 20. Cela exprime l'affection dont nous sommes l'objet. D'abord de la part de Dieu notre Père, et ensuite de nos frères et sœurs dans la foi, comme, non pas un signe extérieur de richesse, mais bien comme une marque d'appartenance. Jésus a dit, je cite, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Et maintenant, le 12e. Nous le trouvons dans cette annonce de Jésus à ses disciples, peu de temps avant son ascension. Je lis Actes chapitre 1 verset 8, Bible français courant. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Témoins de Jésus-Christ. C'est la vocation première de tout racheté. Nous n'avons pas été appelés à être les avocats du Seigneur, car si vous me permettez l'expression, il est, entre guillemets, assez grand pour se défendre lui-même. Simplement être des témoins, simplement dire ce qu'il a fait pour nous, sans en rajouter, comme hélas on le voit parfois, quand, malheureusement, certaines personnes, pour se donner de l'importance, disent des choses qui ne sont pas. L'Évangile nous rapporte ceci concernant l'action de Jean-Baptiste, le précurseur. Je cite, « Beaucoup de gens vinrent à lui. Il disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Résultat, et là, beaucoup crurent en Jésus. Même chose pour la femme samaritaine. Elle a dit à ses concitoyens, je cite, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Résultat, ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Et beaucoup ont cru en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Puis, ils ont été encore bien plus nombreux à croire à cause de ce que Jésus disait lui-même. L'Église est l'assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont sauvés. C'est ce que nous avons appris avec Actes chapitre 2, verset 47. Actes 2, 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, certains ont rêvé à une réunion, un meeting, comme disent nos frères anglophones, qui réunirait les chrétiens du monde entier. Impossible à concrétiser. Toutefois, quand bien même cela se ferait, nous n'aurions pas pour autant rassembler l'Église de Jésus-Christ. Il nous faut distinguer deux notions de l'Église, l'Église locale et l'Église universelle. L'Église universelle n'est pas le rassemblement des églises locales. Elle est spirituelle et ne sera manifestée que dans l'éternité lorsque, lors de l'enlèvement, tous les croyants de tous les temps et de tous les lieux seront réunis dans la gloire. L'Église locale est une réalité de terrain et historique. Comme son nom l'indique, elle est sise à tel endroit, dans telle ville ou contrée, à Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique, à Rome, en Galatie, comme le précisent les lettres adressées par les apôtres aux chrétiens de ces localités. Lorsque l'Église universelle sera manifestée et qu'elle paraîtra comme telle, l'Église locale aura cessé d'exister en tant que locale. C'est l'un ou l'autre. Tout ce que le Nouveau Testament dit et enseigne est adressé à l'Église locale. Les valeurs et principes de l'Église universelle sont spirituels et éternels. Ceux de l'Église locale devront l'être en priorité, sous-entendu spirituel, sur les contraintes et obligations terrestres. Avec la parabole du blé et de l'ivraie, Matthieu chapitre 13, verset 24 et suivant, Matthieu chapitre 13, verset 24, Jésus nous explique que l'on va trouver dans l'Église, comprenant l'Église locale, des personnes qui aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. L'Église exerce en son sein une discipline. Toutefois, ce n'est pas à elle à ôter l'ivraie. Ces choses nous sont annoncées afin que nous ne soyons pas surpris par certains comportements affichés sous l'étiquette christianisme. Néanmoins, comme Paul l'écrit à Timothée, le solide fondement reste debout. avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 1 Timothée chapitre 2, verset 19. 1 Timothée chapitre 2, verset 19. Écoutons maintenant une nouvelle page musicale. Un jour, Jésus a posé la question suivante. Je lis Matthieu chapitre 16, verset 13 et suivant, Bible français courant. Matthieu chapitre 16, verset 13 et suivant. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. » La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Après avoir demandé ce que disent les gens à son sujet, Jésus a demandé à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Car l'important, ce n'est pas ce que pensent les autres, mais bien ce que chacun pense librement, en son âme et conscience. La piété, la relation avec Dieu, est affaire personnelle. Chacun, et ayant à rendre compte pour lui-même. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Extraordinaire confession de foi. Jésus souligne qu'une telle confession de foi est le fait d'une révélation divine. Sans cette révélation, pas de conversion réelle. Ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Puis Jésus précise, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. » Plusieurs versions françaises traduisent cette pierre par « rocher » ou « roc ». La version catalane dit, je cite, « Tu es Pere, y sobre aqueste pedre edificare la meva Église. » La version castillane dit, je cite, « Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificare mi iglesia. » Une de mes filles m'a offert un Nouveau Testament anglais-japonais. Je cite la partie en anglais. « You are Peter, and on this rock I will build my church. » Que nous dit le texte original écrit en grec? S'il vous plaît, pardonnez ma prononciation, car, hormis mon prénom, je ne connais pas cette langue. Toutefois, il est aisé de se procurer le texte afin de vérifier le fondement des écrits. Assuré de votre intelligence, pour ce qui est de la prononciation, je cite « Suei Petros, kai epitautete Petra oikodomeso mouten ecclesian. Le prénom de l'apôtre, que Jésus a surnommé Cephas lors de leur première rencontre, signifie pierre, caillou, et non roc ou rocher. Je lis Jean chapitre 1 verset 42, Bible français courant. Jean chapitre 1 verset 42, et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean, on t'appellera Cephas, ce qui signifie pierre. » Dans le texte grec, c'est donc « Petros ». C'est le mot « Petra » qui désigne le roc sur lequel l'Église va être fondée. Et à la lumière des Écritures, il est clair que le roc sur lequel Jésus établit son Église est sa personne et sa divinité. En conclusion de la parabole de la vigne à fermer à des vignerons insensés et meurtriers, Marc chapitre 12, verset 1 et suivant, Marc chapitre 12, verset 1 et suivant, Jésus cite le psaume 118, verset 22. Psaume 118, verset 22, je lis. Vous avez sûrement lu cette parabole, cette parole de l'Écriture. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. L'apôtre Pierre y fait aussi référence dans sa première lettre, chapitre 2, verset 7. 1 Pierre, chapitre 2, verset 7, je lis. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Questionné par les chefs religieux à propos du mendiant infirme de naissance guéri devant la porte du temple, l'apôtre Pierre leur dira ceci. Actes chapitre 4 verset 11, Bible français courant. Actes 4, 11. Jésus est celui dont l'Écriture affirme « La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. » Pour terminer notre émission, une précision concernant ce qui compose l'Église de Jésus-Christ. Ils ne sont que des humains, avec tout ce que cela implique. Quelqu'un a dit que ce sont des PDG, des pécheurs délivrés par grâce. Et dit d'une autre manière, c'était des pécheurs perdus, maintenant ce sont des pécheurs sauvés. Alors à ceux qui recherchent l'Église locale parfaite, disons-leur avec humour, que s'ils avaient le sentiment de l'avoir trouvée, elle ne le serait plus de parfaite, car il s'y serait ajouté. Cette réalité nous aidera à comprendre la suite de notre étude. Je vous donne rendez-vous pour cela le troisième jeudi du mois prochain. Prenez soin de lire et d'étudier les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen.